Le rendez-vous du libraire. Le rendez-vous du libraire, une émission proposée par la librairie de la Trinité et animée par Agathe de Grey.
Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour. Cette semaine, gageons que, comme moi, vous commencez doucement vos sélections de Noël. Et voilà que, idée saugrenue, il vous prend de vouloir offrir des livres à vos enfants, nièces, neveux et petits-enfants. Pour vous aider, aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à quelques pépites de la littérature jeunesse de l'imaginaire, qui n'ont rien à envier au sempiternel Harry Potter. Parfait à offrir à votre nièce qui ne jure que par les dragons ou votre petit-fils qui attend encore sa lettre d'admission à Poudlard. C'est parti pour un rapide tour d'horizon de ces romans magiques, au sens propre du terme, où l'imagination est reine, les paysages épiques et la langue chamarrée.
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
Commençons d'emblée avec un favori cher à mon cœur. Magic Charlie d'Audrey Alouette. Ne vous en laissez pas compter par ces noms sous couverture anglophone, Magic Charlie est bien l'œuvre d'une Française. Et ça se voit. L'histoire est établie dans la belle ville d'Aix-en-Provence, province évidemment de son autrice. C'est la raison pour laquelle il y est entre autres question de calissons au piment et de lavande qui pousse trop vite. Déployé en 3 volumes, dont le 3e et dernier vient de sortir début novembre, cette trilogie s'attache au pas de Charlie, aimable adolescent flanqué d'un chat nettement moins accommodant, qui découvre que les pâtisseries magiques de sa grand-mère le sont littéralement. Tout commence lorsque la grand-mère de Charlie, portée disparue depuis 5 ans, est rapportée chez eux amnésique. Malgré son état actuel, elle délivre bientôt un message à son petit-fils. Il aurait été initié à la magie étant enfant et courrait désormais un grave danger. L'aventure commence alors pour Charlie, June, sa meilleure amie, résolument rebelle, et sa potille, la solitaire mais déterminée première de classe. Car l'apprentissage de la magie est bien plus difficile qu'il n'y paraît, surtout qu'elle est très strictement réglementée et distribuée par une académie de magie à l'éthique douteuse. Dans l'univers de Tadam, capitale de la magie, cette dernière est toujours synonyme de pouvoir. Seuls les magiciens les plus puissants peuvent prétendre au titre et à la fonction d'allégorie, le grade suprême, et devenir les avatars de concepts comme le courage ou l'aveugle justice. Pire encore, un magicien particulièrement puissant est enfin parvenu à incarner la grande faucheuse. Mais comment les activités de l'allégorie de la mort pourraient-elles bien être réglementées? C'est dans cette société magique, pleine d'injustices, de surprises et de dangers, que Charlie mène l'enquête et voit sa gentillesse, son altruisme et son courage durement mis à l'épreuve. Audrey Alouette manie comme personne une langue aussi crépitante qu'une bonne dose de sucre étincelle, alliant l'humour d'un Terry Pratchett à des descriptions d'inspiration presque balzacienne, où c'est tout le paysage d'Aix-en-Provence qui s'anime. Ici, une maison dont les grincements témoignent d'un caractère épouvantable, là, une journée d'été retardataire qui surgit en plein automne. Enfin, pourrait-on dire, un roman jeunesse qui fait la part si belle au style, empli de la reliure à la couverture d'une foule de métaphores, de synesthésies et de personnification, propre enfin à ressusciter le goût de la description chez les jeunes et moins jeunes, bercés aujourd'hui au scénario pur. Sous la plume d'Alouette, c'est le texte tout entier qui s'emploie aux sortilèges et aux métamorphoses et éveille à la plasticité de la langue et de notre imagination. N'hésitez pas à offrir cette très belle trilogie, pépite de l'imaginaire jeunesse, fleuron, oserais-je dire, de l'artisanat aixois. Après ce véritable coup de cœur, laissez-moi vous présenter un autre ouvrage, tout à fait digne de figurer dans cette liste, et dont le nom, conservé en anglais, Sorcery of Thorns, reflète cette fois réellement ses origines américaines. Aventure en un seul tome, récemment republié dans une très belle édition Grimoire, ce roman de Margaret Rogerson nous emporte sur les pas d'Elisabeth, jeune fille élevée au milieu des dangereux grimoires magiques de l'une des grandes bibliothèques d'Ostermeer, où il est fréquent de se faire mordre par un ouvrage ou de devoir consoler un incunable récalcitrant. Mais pour dangereux qu'ils soient, les livres le sont toujours moins que les sorciers qui les utilisent. D'ailleurs, peu après le passage de l'un d'eux, un grimoire d'une dangerosité inouïe se transforme en monstre de cuir et d'encre, suite à quoi, comble d'infortune, c'est Elisabeth elle-même qui est accusée de négligence. Elle est alors forcée de comparaître devant la justice de la capitale, en compagnie de ce sorcier et de son terrible serviteur Silas. Et dans les intrigues de la capitale, malgré leur méfiance mutuelle, ils ne seront pas trop de trois pour lever le voile d'un effarant complot qui pourrait bien occasionner la fin du monde. Menée d'un bout à l'autre d'une main de maître à un rythme effréné, Sorcery of Thorns déploie une construction très fine, qui dénonce les ravages causés par la superstition et les préjugés, et brille particulièrement dans le développement des interactions entre les personnages. Elisabeth, dotée d'un grand courage et d'un sens de l'humour à toute épreuve, se distingue particulièrement, de même que les grandes descriptions de ses bibliothèques animées, où les livres ont leur petit caractère et quelques vilaines habitudes. En tout cas, ce grimoire-ci se nichera facilement sur toute étagère et sera bien difficile à abandonner tant son intrigue et ses personnages sont attachants. Et les écoles de magie dans tout cela, me direz-vous? Peut-on encore en trouver une aussi farfelue que Poudlard? Si les contes qui finissent mal ne vous font pas peur, vous pouvez très bien vous décider plutôt pour l'école du bien et du mal, dont le premier tome peut se lire comme une histoire indépendante, bien qu'une suite ait été publiée. Ce roman raconte les aventures de la lumineuse et capricieuse Sophie et de la timide et glauque Agatha, meilleures amies malgré leurs différences, soudainement projetées dans une école légendaire à deux châteaux, dont l'un abrite les beaux élèves destinés aux gloires héroïques des gentils de contes de fées, et l'autre, les monstrueux élèves, futurs némésis des princes et princesses, en formation pour devenir les méchants les plus cruels. Comble du malheur, la répartition de début d'année attribue à la radieuse Sophie l'école du mal, tandis que la triste Agatha se retrouve isolée au milieu des pimpantes princesses de l'école du bien. Dans ce roman plein d'ironie, en forme de conte de fées moqueur, Soman Shainani interroge les stéréotypes classiques du beau associé au bien et du laid associé au mal, et leur oppose les morales ambiguës des contes de fées à l'européenne. Du roi Arthur à Hansel et Gretel en passant par Cendrillon et Blanche-Neige, l'ouvrage convoque une foule de références fidèles aux contes anciens, revisités avec humour, et tente de poser des questions essentielles, dont la plus évidente n'est pas la moindre. Le bien comme le mal peuvent-ils être absolus ? L'école du bien et du mal est un livre surprenant et piquant, où l'humour pointe derrière chaque mot, souvent aux dépens de nos héroïnes, que tout s'ingénie à séparer. Une nouvelle fois, ce sont bien les préjugés qui sont la cible de Soman Shainani, puisque ce livre ne pourrait avoir qu'une morale. Il ne faut jamais, au grand jamais, se fier au jeu des apparences, sous peine de perdre une amitié chère, ou de finir dans la gueule du grand méchant loup. Il me paraissait inenvisageable de quitter cette chronique sans vous présenter un classique français, dont l'auteur malheureusement décédé aujourd'hui manque toujours à nos étagères. Et je dis un classique, car il faut bien en choisir un, mais tout l'ensemble de ces romans jeunesse est un trésor, d'autant plus inestimable que leur nombre est maintenant fini à tout jamais. Je voulais vous présenter les magnifiques histoires de Pierre Bottero.
Le rendez-vous du libraire. Le coup de cœur de la semaine.
Je l'ai dit plus tôt au sujet de Magic Charlie et je tenais à le répéter ici. Le style, en littérature jeunesse, n'attend pas nécessairement le nombre des années. Et l'on peut écrire pour les plus jeunes sans sacrifier le beau de la langue. C'est ce que faisait Pierre Bottero au détour de chaque page, de chaque paragraphe, jouant avec les silences comme avec les mots rares et précieux. Les romans de Pierre Bottero se frôlaient tous les uns les autres, et telle aventure faisait souvent écho à tel événement d'une autre trilogie. Mais s'il vous prenait d'offrir une porte vers ces univers enchanteurs, je vous conseillerais le premier tome de La Quête des Willans. élu même par l'Éducation nationale au nombre de ses romans qui donnent le goût de la lecture. Vous y suivrez les aventures de la très fine Camille et de son ami Salim, accidentellement transportés dans un univers parallèle où la magie existe, bien qu'elle ait presque disparu. Camille, dernière porteuse de ce pouvoir titanesque, se découvre la capacité de faire advenir tout ce qu'elle imagine dans la réalité. Bientôt, toute une équipe d'aventuriers se soude autour des deux adolescents et commence une quête qui les portera aux confins de leurs cartes et des terres connues. L'ensemble des récits de Pierre Bottero est porté par sa plume légère et juste, aussi précise qu'élancée, qui convoque mille merveilles au moyen de quelques mots. Alors voilà, je termine cette chronique avec lui, avec un auteur disparu trop tôt, mais qui aura toujours sa place à nos étagères pour avoir donné le goût des livres à tant d'enfants et avoir touché de très près le véritable pouvoir d'évocation et d'invocation des mots. C'est sur cet hommage que je vous quitte. Pour Noël, n'hésitez pas à offrir la beauté des histoires et la magie des mots dont tant d'ouvrages témoignent et dont toute une sélection vous attend sur les étagères de notre librairie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission et dans l'intervalle, n'hésitez pas à venir nous rendre visite à la librairie de la Trinité de Toulouse pour découvrir les livres que je vous ai présentés et bien d'autres encore.